Dernière demi-heure, pardon, de l'aérospatiale. Toujours Jacques Gignac et Jean-Pierre Gay avec vous. Et pour cette dernière demi-heure, nous avons... Catherine Ève a eu la très bonne idée. Bonjour, Catherine Ève.
Bonjour.
Catherine Ève a eu la très bonne idée de réunir autour de cette table des gens qui participent qui font partie des médias et qui ont à traiter donc de l'art visuel. On a donc autour de la table Danny Quinn qui est resté avec nous et qui a été longtemps journaliste au Soleil. Éric Couture, qu'on connaît bien ici à CKRL, qui a donc été à sa manière journaliste, mais qui est aussi d'une boîte de communication dont la spécialité est de faire le pont entre les journalistes et les artistes, donc Cabale Communication.
Remarque que je suis ici à titre personnel, mais bonjour.
Bonjour. Et Mathieu Dugal, qu'on connaît beaucoup ici à CKRL, et Mathieu qui l'été dernier était à la barre d'une émission culturelle à Vox, qui était Les Éclectiques. Excellente émission
qui d'ailleurs. Qui revient d'ailleurs l'année prochaine. Scoop, scoop.
excellente nouvelle. Et qui est aussi blogueur.
Oui, c'est ça, à miseajour.tv pour Vox toujours.
Ben, merci Mathieu d'être là. Alors Catherine Ève, étant donné que tu as eu la bonne initiative de réunir tout ce beau monde-là, ben on te laisse la parole.
Ben, en fait, on veut réfléchir sur la relation qui est parfois difficile entre les journalistes et l'art visuel. Qu'est-ce qui accroche? C'est quoi le bobo là qu'on mette du mercurochrome là-dessus puis qu'on règle le problème là? Qu'est-ce qui accroche selon vous?
Moi, je te dirais, pour être en contact très, très régulier avec les journalistes, je pense que c'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance en eux et le problème de confiance en leur goût, tout simplement. C'est pas nécessairement quelque chose... Je ne suis pas formé en art visuel, je suis simplement un amateur d'art visuel qui s'y est formé par la fréquentation, comme a pu le faire Jean-Pierre, d'ailleurs, ou certains autres. Je pense qu'on est... Est-ce que tu es historien de l'art, toi, Danny?
Oui.
T'es le seul, je pense, autour de la table à être historien de l'art. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une formation particulière. Il faut simplement avoir envie et peut-être penser que quand on filtre l'information en disant que c'est pas accessible au niveau des médias, ben on se rend jamais jusqu'au moment où le public le trouve accessible, cette forme d'art-là. Et c'est ça qui est dommage peut-être avec les médias.
Danny?
Hey, je suis pas mal d'accord avec toi.
Mais pourquoi le lien est facile?
Mais je dirais quelque chose de plus, puis là, ben... Ça va... Bon, expliquer un petit peu. C'est que, oui, il y a un manque de confiance, forcément, mais je dirais que c'est justifié, ce manque de confiance, parce que, il faut le dire, c'est pas évident, cet univers-là. Justement, j'en parlais tout à l'heure, tu sais, à force de voir des œuvres et tout ça, j'ai plus de références, donc j'étais peut-être plus en mesure de d'émettre un discours, une réflexion. Et quand on n'a pas beaucoup de références, quand on n'en voit pas beaucoup, quand... Forcément qu'on est un peu mal à l'aise là face à ça. Quelqu'un qui est pas habitué à un univers là, justement qui a jamais bu du vin sauf le cuvée des Patriotes. D'ailleurs, ça existe même plus, je pense.
Heureusement.
Mais puis là, eh ben, je sais pas moi, il boit un Château Pétrus 1961, il va dire ah mais c'est quoi cette affaire là, arc, tu sais, je sais pas là. Bon, et forcément, ben il y a des acquis, il y a des connaissances, il y a des expériences, puis c'est à l'aune de ces connaissances, ces expériences qu'on finit par être à l'aise et plus être mal à l'aise.
Sauf que c'est plus facile en art visuel de nos jours de faire passer du Cuvée des Patriotes pour du Château Pétrus.
Ouais.
Et c'est ça un peu, c'est ça un peu le problème. Ouais. Et c'est un problème, je dirais, c'est un double problème. D'une part, je crois que les patrons des stations de télé, des stations de radio, des journaux ne croient pas beaucoup en la capacité de vente de l'art visuel. C'est aussi bête que
à
ça.
À part quand ils leur vendent des pubs.
Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, c'est un monde qui vend pas bien, qui se vend pas bien. Et ça, je pense qu'il y a un manque d'éducation de la part des patrons. Parce que s'il y avait une volonté de la part des patrons, ben le reste suivrait. Les patrons veulent parler de sport. On a des très bons chroniqueurs de sport au Québec et ça se vend très bien. Et il y a une grande... Je pense qu'il y a aussi un gros problème en ce qui a trait aux artistes. Parce que les artistes... je fais toujours la référence avec mes amis scientifiques qui font de la recherche fondamentale dans tout plein de domaines. Ces gens-là sont toujours capables de me parler en langage familier, en langage populaire de leur recherche, même s'ils publient dans des revues spécialisées. Et j'ai l'impression... que les revues en art visuel sont un peu à l'art visuel ce que les revues d'épistémologie de recherche scientifique sont à la science. Et on n'a pas vraiment de science et vie de l'art visuel. Ouais. On n'a pas vraiment l'équivalent. C'est-à-dire que c'est des revues faites pour des spécialistes. Et si vous comprenez pas ce langage-là savant, too bad, retournez chez vous.
Il y a peut-être vie des arts.
Peut-être, oui, peut-être.
Vie des arts qui est plus, un peu plus près que...
Remarque, j'aimerais ça réagir à ce que disaient nos deux amis. Le problème est surtout du fait que on ne mettrait jamais face à un micro à Radio-Canada ou dans n'importe quelle station de radio quelqu'un qui ne connaît pas bien le cinéma, la chanson, le théâtre. Mais on se permet de mettre quelqu'un en onde qui ne connaît peu ou pas les arts visuels et que ce n'est plus un critère.
Et on va lui faire faire la météo aussi.
Oui, absolument. Ça, c'est clair.
Mais en même temps, on les reçoit, ces communiqués-là, puis ils sont pas toujours hermétiques. Là. Moi, je pense au centre-vue, la photographie. On est en contact avec la photographie régulièrement. Il y a une fille qui s'en vient, Amy Stein, une pointure, quelqu'un qui fait un travail assez facile, là, c'est accessible. Pourtant, je suis convaincue qu'il n'y aura pas de couverture ou très peu. Comment on explique ça? Pourtant, les communiqués, je veux dire, les journalistes sont habitués à lire des communiqués, ils les comprennent, mais ils n'ont juste pas la curiosité de s'y rendre. C'est ça que je trouve particulier.
Ben moi, je pense que je suis un bel exemple de ceux qui ont eu à oser pour aller mettre pour aller entrer à Méduse. Moi, Méduse, ça, c'est, pour moi, c'était une espèce de laboratoire qui n'était pas accessible. Et quand j'y allais, je me sentais pas accueilli. Puis le plus bel exemple, ça change, là, mais le plus bel exemple, c'est l'œil de poisson. Puis quand on arrive à l'œil de poisson, on entre là, et là, on est face à des bureaux.
Oui, c'est vrai.
Les têtes se tournent vers toi, puis là, ils te regardent. Et là, tu rentres dans la salle. Puis moi, à l'époque, je me sentais de trop, puis j'espérais surtout pas qu'ils viennent me poser des questions sur ce que je venais de voir là. Donc ça, c'est, il y a un travail qui se fait de plus en plus dans les centres d'artistes. On parle de vue, on parle d'engramme. Il y a maintenant des gens qui nous accueillent quand on va là. Et ça, c'est important parce que ces personnes-là sont des gens du centre qui peuvent te parler des œuvres pour nous aider. Mais quand quelqu'un comme moi qui est curieux, mais qui est pas du domaine, c'était gênant de rentrer là. Il y a un chemin qui est en train de se faire de ce côté-là.
Éric, tu voulais ajouter quelque chose? Il y a un autre, c'est le revers de la même médaille. Mm-hmm. Parce que si les gens, s'il y avait beaucoup de visiteurs, et si ça devenait vraiment quelque chose de valorisé d'aller voir une exposition en art visuel, ben ces gens-là, ils se sentiraient pas dérangés par 2, 3, 5, 13 visiteurs dans une journée. Et là, tout d'un coup, ça deviendrait normal et il y aurait possiblement le budget pour mettre quelqu'un pour accueillir les gens, les guider dans la salle, leur donner des petites... c'est souvent, par défaut, quelque chose qui finit par sauter parce que, bon, malheureusement, l'art s'est fonctionnalisé avec les années. Ces gens-là passent plus de temps à répondre à des formulaires de demande de subvention qu'à des gens qui sont là pour venir voir les œuvres. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Bon, évidemment... À partir du moment où on n'entend pas ou peu parler de ces manifestations-là, en tout cas énormément moins que dans d'autres formes, ben c'est sûr que ça finit par donner un phénomène de vase clos. Et ce vase clos-là, malgré certains efforts que tu loues là dans certains centres pour rendre ça plus accessible, nous de notre côté chez Cabal, on essaye de faire ça, de parler l'artiste et le journaliste en même temps là. Mais même ces efforts-là sont pas toujours salués par des succès du côté des médias.
Exactement.
Mais en même temps, on le fait dans les musées. C'est ça qui est assez étonnant parce que la muséographie, depuis quelques années, est très ouverte. Le public peut presque, bon, dans certaines expositions, mettre des gants puis commencer à manipuler les choses, à jouer.
C'est une question de moyens, tout simplement.
Oui, il y a peut-être, sans doute qu'il y a ça.
Oui, mais il y a aussi, je crois que les journalistes souffrent de vedettite aiguë. Parce que moi, je suis allée dans des vernissages, le vernissage, entre autres, de Diane Dufresne, qui se fait peintre parfois, de Richard Séguin, qui se fait graveur. C'était plein. Et pourtant, il était là pas pour parler musique, là, pour parler de sa démarche, du rituel autour de la gravure. Le même discours que certains autres graveurs. Puis on me dira pas que tous les artistes, quand même, ont de la difficulté à s'exprimer. Là. Il y en a plusieurs qui arrivent.
Mais ça, c'est parce que c'était Diane Dufresne.
Ouais, mais c'est ça. Mais les journalistes y étaient. Donc, c'est dire qu'ils en souffrent de ça. Là.
André Montmorency avait exposé des tableaux immondes dans un café à Québec. Et je suis certain qu'il y a eu plus de couverture que Raphaël Sotolicchio qui exposait des tableaux magnifiques chez Lacerte.
Mais là, on touche un problème qui est en train de se répandre de plus en plus dans les médias. C'est-à-dire que, et c'est drôle parce que j'écoute Il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, aux oreilles récemment en écoutant bon la radio publique, en écoutant certaines émissions de la télé publique, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus les médias sont atteints de la même maladie que les revues spécialisées en arts visuels, c'est que les médias parlent du média. On parle, la télé parle de la télé, la radio parle de la radio, la vedette parle de la vedette, et la seule différence dans le fond, c'est que ce qui fait que ces gens-là peuvent avoir un auditoire qui a de l'allure, c'est que on parle de gens connus. Mais je dirais ce problème-là que de ne parler que de soi, de se retourner le bobo, de virer le bobo, de gratter bien, bien fort, il est très présent dans tous les domaines et l'art visuel y échappe pas. Et je reviens avec cette ouverture-là, en fait, que vous avez fait au sujet des vedettes. C'est vrai que mais n'importe qui, n'importe quel taouin qui a un semblant de popularité, et fait lui faire une exposition, c'est sûr qu'il va y avoir plus de monde, ben oui, que c'est Tolokyo.
Si Wilfred Leboutillier faisait du petit point, là, il serait couvert.
Non, effectivement. Et ça, c'est un problème de culture. Et ça, c'est un problème vraiment de culture journalistique, de culture médiatique. Et de plus en plus, la culture des médias s'en va vers... c'est une fuite en avant, là. Pour avoir des codes d'écoute, on va toujours chercher ce qu'il y a de plus gros. Et ce que le plus gros attire, ce qu'il y a de plus gros. Et on grossit comme ça. Et je pense pas, justement, que dans un monde comme ça, on va en arriver une bonne couverture journalistique, parce que ces médias-là sont condamnés à faire du plus gros que nature.
Est-ce que ça peut être aussi le médium? Parce que je me souviens d'avoir eu cette discussion-là avec toi quand tu as passé de la télévision à la radio. C'est que tu dois être une représentation de toi-même, comme, surtout quand tu fais de la télévision. Et là, ça devient... C'est que tu entres dans un monde de l'image et
Et le monde de l'image a envahi la radio. Maintenant, la radio, on veut des vedettes.
D'ailleurs, il y a
des
une caméra connus, ici.
C'est de plus en plus rare d'avoir des gens, par exemple, à la radio, qui ne font que ça, qui sont habités par ce médium-là, et qui par exemple, à qui on va donner une ouverture pour parler de sujets X, Y, Z. Et en ça, je trouve que la disparition de la chaîne culturelle à Radio-Canada, ça a été, peu importe les raisons, ça a été assez dommageable pour tout ce monde-là qui était représenté dans les médias et qui ne l'est plus actuellement.
Mais est-ce que le manque de couverture, ça vient pas aussi du fait qu'il n'y ait plus de spécialistes, de journalistes spécialisés, c'est-à-dire qu'on tout le monde est généraliste, donc on parle de tout, mais on se spécialise en rien, et on doit connaître autant la musique que le cinéma, que la littérature, mais en même temps, on s'entend qu'on peut pas connaître tout ça.
Mais les journalistes qui couvrent le cinéma sont spécialisés dans le cinéma, non?
De moins en moins.
Écoutez, regardez, le dernier grand spécialiste, je pense, qui faisait de la critique à Québec, c'était Jean Saint-Hilaire, mais il partait des pages des Sports au départ.
Oui, effectivement.
Mais il a fini par se former. Mais bon, je pense à Nathalie Côté, qui était peut-être une des dernières personnes qui était vraiment
du milieu de l'art.
Bon, Sébastien Hudon, je le connais peu, en fait. Mais quand je regarde, puis c'est pas un problème, là, regarde Nadia Ross, je sais pas qu'est-ce qu'elle peut avoir comme formation au soleil, mais elle doit faire plusieurs autres papiers dans plusieurs autres sujets dans la semaine. Et on est rendu à devoir être... Ces gens-là, pour avoir un salaire, doivent être nécessairement polyvalents. Et là encore, on revient au problème des patrons. C'est les patrons qui leur demandent
ça. Oui, Nadia Ross, en fin de semaine, elle a fait une série d'articles sur la pornographie, qui n'avait absolument rien à voir avec l'art.
Et elle travaille le soir au pupitre.
Bon. On va faire une petite pause. Et au retour, on va parler de ceux qu'on appelle les médiateurs qui sont entre les artistes et les journalistes. Donc, pose le dernier de ce disque-là de Luigi's Avatar, c'est Jocelyn Robert, un classique d'Avatar. Voici une pièce intitulée « En haut à gauche ». Alors, de retour, donc, pour cette dernière partie de cette table ronde, malheureusement, hein, qu'on se disait qu'on aurait dû faire une heure.
Il faudrait faire prise 2, non?
Oui, moi, je voulais parler... Éric Couture, qui est ici, est en quelque sorte un de ce qu'on appelle de plus en plus dans le domaine de l'art actuel. Il y a ce qu'on appelle des médiateurs, des gens qui se mettent entre les artistes et le public pour aider, et la presse particulièrement, pour aider à faire en sorte que le message des artistes se transmette, soit plus accessible. Et malgré tout, ces médiateurs-là, il arrive parfois que... Puis moi, j'en connais un très bien, Guy Sioui-Durand, puis je vais le citer ici, une citation qui est quand même pas si compliquée que ça, mais qui est vraiment complexe quand on la quand on
à la
lit.
Maison, si vous êtes debout, si vous conduisez, là, rangez-vous
sur le côté.
Sur le bas côté, ça risque de fesser.
Mais Guy... alors voici, il est Guy commentait dans le tout dernier numéro d'Inter, celui qui vient de sortir, il commentait l'exposition, vous vous rappellerez, de Caroline Gagné, Ligne de flottaison, mm-hmm. qui était chez Vue, justement. Alors, son introduction est celle-ci. Au départ, nous cherchions à trouver une situation de transition entre l'image et le son. Cela signifiait pour nous d'investir un espace transitoire, d'explorer un chemin entre deux territoires adjacents qui ne se touchent pas. Nous avons situé l'image dans le contour d'un objet en suspension sur une ligne de flottaison dont seulement la partie émergente, se trouve révélée. Un texte comme ça, monsieur, madame de Limoilou ou de Saint-Jean-Baptiste, n'y verra absolument rien.
J'habite Limoilou.
Il y a une forme de vocabulaire hermétique.
C'est une écriture de l'exclusion. Dans Lecteur in Fabula d'Umberto Eco, il y a une théorie où il construit en fait la théorie du fameux lecteur modèle qui existe en littérature, c'est-à-dire que quand on écrit un texte, la manière dont on écrit, les silences qu'on laisse, les mots qu'on emploie, le type de texte qu'on écrit, on construit un lecteur qu'on pense être le récepteur idéal pour ce genre de texte-là. Quand on lit Ducamp, ben son lecteur modèle, c'est X. Quand on lit Patricia X. Smith, ben son lecteur modèle, c'est une autre chose. Le lecteur modèle de Guy Sioui-Durand, mettons en général les gens qui parlent d'art contemporain, c'est la personne, c'est la personne elle-même et c'est vraiment démago, là, on va dire un cercle de cinq lecteurs. Mais c'est dommage de voir que la manière dont on parle, et là je reprends mon exemple de revue d'épistémologie, c'est bien le fun quand t'es scientifique, quand tu veux réfléchir sur ta science, de lire des abstracts en épistémologie, mais c'est pas comme ça que tu vas faire connaître ta science.
Exact.
Oui, mais en même temps, Mathieu Inter se présente pas comme un ouvrage de vulgarisation. Non, ça s'adresse quand même à des gens qui ont réfléchi. Inter, c'est peut-être pas un bon exemple. Puis il y en a quand même quelques magazines. Mais moi, ce que je veux ramener le débat aux médias de masse, là, aux médias, la radio de tous les jours, notre télévision, c'est là, moi, je pense que le vrai problème se trouve.
Parlons d'un exemple très clair. On a eu toute la misère du monde à un certain moment donné à faire parler d'un événement. On a fait lever un événement qui s'appelait Les Regards Fous de Folie Culture.
Oui.
Et une pièce a été censurée. Eh bien, ça a été repris jusqu'à dans le India Times.
On parle de la pièce de Martin Bureau.
Oui, qui était en l'honneur de sa gracieuse majesté. Mais s'il n'y avait pas eu ce scandale-là, jamais on en aurait parlé autant.
On n'aurait pas dû parler jamais.
Jamais. Et on cherche encore le spectacle, on cherche encore la bête noire, on cherche encore la sensation.
Oui, mais c'est drôle ce que tu dis là, Éric, parce que, de façon intéressante, là, c'est que je me souviens très bien qu'il y a des galéristes qui disaient que suite à un article que j'avais écrit où je vilipendais, c'est un gros mot, là, mais où j'étais assez critique, puis j'envoyais des choses pas nécessairement très... ma plume était plutôt vitriolique, il y avait une fréquentation énorme de l'exposition. donc, oui, ça peut être parce que on encense l'événement, mais ça peut être aussi le contraire. Je pense que c'est comme si l'être humain a besoin d'extrême. Tu sais, dans le milieu,
On se souviendra d'Alexandre Motulski-Falardeau qui, après un article qui a été décrié, je pense, à raison, parce que c'était pas fondé, a fait un des plus gros succès de l'histoire du lieu. c'est un fait.
Effectivement, il avait soulevé la controverse et ça avait eu l'effet inverse recherché, dans le fond, parce que lui, il avait dénoncé ce qui se passait là en disant le lieu depuis 25 ans, c'est pas bon.
Remarque, on n'est pas obligé d'aller jusque dans ces confrontations-là pour avoir une relation agréable entre journaliste et artiste.
Mais cela dit, une des plus grandes cotes d'écoute qu'on a eues, nous, à Méchant Contraste, jadis, c'était, on essaie de faire des sujets un peu sexy quelquefois, d'essayer de trouver des trucs dont on pensait que ça allait attirer les gens. Et une de nos plus grosses cotes d'écoute, ça a été une émission qu'on a fait sur l'art et l'anarchie. Donc, les liens entre les mouvements anarchistes, les mouvements artistiques, on remontait au début du siècle, on parlait de Proudhon, on parlait de tout ça. Et on a eu des cotes d'écoute, ça se pouvait pas, là, on n'en revenait pas. On faisait des deux, puis trois, puis quatre fois de ce qu'on faisait d'habitude avec des sujets en apparence plus...
Plus trash.
Et donc, souvent, c'est une question aussi de bien présenter les choses. Quand on est capable de bien vulgariser, et à ce titre-là, moi, je trouve que Catherine Ève fait un superbe travail à Radio-Canada. À ce titre-là, c'est rare des gens dans les médias qui peuvent avoir, et vous le faites aussi à l'émission depuis longtemps, qui peuvent avoir cette volonté-là de faire... je pense qu'il faut être capable d'avoir le langage pour être reconnu dans le milieu, d'avoir le langage savant, mais il faut être aussi capable de faire la transition et de savoir à qui on s'adresse. Et qu'on s'adresse à des gens, quand on parle de musique, quand on parle d'art visuel, des gens qui sont pas nécessairement d'emblée attirés par cette chose-là. Il faut être un peu kinky, il faut être un peu racoleur, mais il faut que le milieu de l'art soit prêt à accepter ça aussi.
Et nous ici, le point de vue éditorial qu'on a adopté depuis le tout début, c'est pas celui d'être des spécialistes, quoique Richard en est un, mais le ton de cette émission est un ton qui vise à donner justement aux auditeurs le goût d'aller voir des œuvres d'art, le goût d'oser,
Je pense que vous remplissez énormément bien cette fenêtre-là qui était malheureusement inexistante.
Oui, puis c'est de ta faute d'ailleurs.
Je m'en veux encore.
Mais l'idée, c'est de faire passer la passion. Je suis convaincu, moi, qu'aujourd'hui, les gens qui ont entendu Danny Quinn vont aller voir l'exposition.
J'espère.
Mais c'est ça qui est le point de vue de cette émission aussi. On ne se présente pas comme des spécialistes en art. C'est pas ça qu'on veut faire, parce qu'on sait très bien que ça ne pourrait pas ratisser très large. On aurait peut-être quatre ou cinq auditeurs. Qu'il y ait un auditeur plus large, si on veut un auditeur plus large, il faut être capable de les rejoindre. Et pour les rejoindre, il faut les intéresser, il faut leur donner le goût et non pas juste à faire appel à l'intellectuel.
Mais justement, c'est que le discours que vous tenez est un discours inclusif. La personne qui écoute n'a pas l'impression d'assister à un cours universitaire. Les gens entendent des commentaires de j'allais dire monsieur tout le monde, mais de gens qui n'ont pas nécessairement toute la langue de bois, qui n'ont pas aussi l'obligation, soit à une cote d'écoute, soit à une espèce de vous n'avez pas à répondre à des impératifs de patron. Et, bon, tout ça. Et ce que ça fait, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont donné la permission d'aller voir de l'art visuel à cause de l'aérospatiale. Et je pense que des gens qui ont peut-être plus de pouvoir encore, parce que plus d'auditoire, auraient avantage à faire ça. D'ailleurs, Catherine Ève, quand tu le faisais à Radio-Canada, tu t'es rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui écoutaient ces chroniques-là, et que quand on a voulu les couper, il y a eu des réactions.
Oui. Et d'ailleurs, moi pour avoir j'étais témoin de nombreuses fois de lorsque Catherine Ève abordait un sujet le samedi matin, dès l'après-midi, il y avait du monde qui allait
remarquez que ça a déjà été pire. Ça a déjà été pire. Je me souviens qu'à un certain moment donné, à Radio-Canada, une fille qui a travaillé ici d'ailleurs, qui était stagiaire à Radio-Canada, disait qu'on jetait à la poubelle systématiquement tout communiqué venant de Méduse. C'est à l'époque du fax, mais il y avait à côté du fax, il y avait une poubelle et tout ce qui venait de Méduse allait dans le fax.
C'est une roue qui tourne, en fait. Si on n'est jamais exposé à l'art visuel, même en tant que journaliste, là, si on n'est jamais exposé à l'art visuel, on n'aura pas envie d'en parler. Puis il faut savoir quel genre de journaliste aussi on met en onde. Moi, je me souviens avoir entendu Marie-Soleil Michon commenter une exposition au Musée d'art contemporain à la Fosse aux Lyonnes, mais c'était d'un ridicule. Mais en même temps, cette fille-là, écoute, elle n'a pas de bagage en art. On peut pas lui demander de faire mieux que ça. Puis c'est vraiment... On revient, en fait, c'est peut-être un peu redondant, mais c'est des choix de programmation, c'est des choix de boss. Si on met une personne qui connaît rien à l'art, on lui demande de parler d'art, ça va donner quelque chose de bien ordinaire, puis probablement que l'auditeur sortira pas de chez lui pour aller voir ça.
Dans la même émission, j'ai déjà vu quelqu'un qui disait, qui prenait un pâté chinois en disant si je décide que c'est une œuvre d'art et que j'ai le diplôme pour le faire, c'en est une. C'est réducteur et c'est réduire à de la théorie séduisante, vous me direz bien, mais qui est simplement de la théorie et c'est pas ça qui va donner du pain et du beurre.
Jean-René Dufort, la semaine dernière, est allé rigoler là, à Saint-Hyacinthe, je sais plus où, dans l'espèce
orange.
Orange, là, la pièce qui a été transformée avec du ketchup. C'est sûr qu'on peut toujours réduire l'art visuel à ça. Puis tu sais, Jean-René Dufort, je sais, on connaît, là, il aime regarder différentes choses avec à travers sa lunette bien à lui, mais reste que si on fait que ça tout le temps, c'est sûr que ça, c'est pas payant, les arts visuels.
Une dernière, madame.
Oui,
Mathieu.
Mais en même temps, moi, je pense que de toute façon, même avec les meilleurs efforts qu'on fait, les meilleurs, mettons dans un système parfait, je pense que de toute façon, l'art d'avant-garde n'est pas nécessairement destiné à attirer les foules. Ça a été comme ça de tout temps, et ça va continuer à l'être aujourd'hui. C'est la même chose en musique aussi. Ceux qui font la recherche d'avant-garde en musique, on pense que c'est la musique alternative, là, la recherche d'avant-garde. C'est pas ça. La musique d'avant-garde, ça occupe la portion congrue, mais je pense qu'il faut espérer que cette portion congrue-là augmente un peu parce que même comme elle est là, c'est pas un art qui a droit, je pense, à toute la résonance et la, je pourrais dire, le comment j'en perds mes mots, là, mais la reconnaissance. Qui lui est due.
Jean-Pierre, le mot de la fin. Okay?
Le mot de la fin.
La beauté de tout ça, c'est qu'au mois multi, les salles sont pleines à 80-90% du temps. Donc, on se dit qu'au moins le public est au rendez-vous et qu'il est peut-être plus intelligent que les journalistes.
Et quand le mois multi est allé dans le parc Saint-Roch, il y avait plein de monde qui était là aussi. Ben merci beaucoup, Danny, Éric, Mathieu et Catherine Ève d'avoir réuni ce beau monde.